Alors aujourd'hui, bonjour d'abord à tous les Auroviliens. Aujourd'hui, je vais vous lire l'aventure de la conscience, la continuité du chapitre La transformation, le yoga du corps. La deuxième phase, c'est le corps. Quand Sri Aurobindo commence en 1926, s'ouvre la deuxième phase et elle va s'étendre jusqu'en 1940. Lorsqu'il brûle dans le cœur nos moments d'âme, nous savons que la poitrine est comme un foyer intense, si intense que la couleur de la peau peut changer et que même un œil non averti peut percevoir une sorte de rayonnement presque d'incandescence autour du yogi. Lorsque cette agni brûle dans le vital, dans nos moments d'appel, de force ou d'ouverture cosmique, c'est comme une pulsation serrée à la hauteur du nombril, presque un tremblement de fièvre par tout le corps. Et c'est beaucoup de force qui entre dans un chenal minuscule, mais que dire de ce poudroiement d'or chaud, ce vin d'éclair dans les cellules du corps. Ça commence à bouillonner partout, dit la mère dans son simple langage, comme une chaudière qui va éclater. Les rishis védiques aussi disaient que si l'on va trop vite, on se brise comme une jarre mal cuite. En outre, s'il s'agissait simplement de créer quelque chose de toute pièce, le problème serait relativement simple. Mais il faut faire avec ce que l'on a. Il faut passer d'un état actuel à un état autre, d'une vieille organisation à une nouvelle. Il y a un vieux cœur qui est là et des vieux poumons. À quel moment, remarquez mère, va-t-on arrêter le cœur pour lancer la force en circulation? C'est le passage qui est difficile. C'est le passage qui est difficile. Il faut d'innombrables expériences répétées, de minuscules expériences infiniment dosées pour habituer les cellules afin qu'elles ne s'affolent pas dans la transition. Le premier problème est donc d'adapter le corps. Et pour cela, il faut des années, peut-être des siècles. Sri Aurobindo a travaillé pendant 40 ans et mère pendant 50 ans à cette adaptation. La nécessité pratique immédiate est donc de durer, aller plus vite que la mort. Au fond, dit la mère, la question et de savoir dans quelle course vers la transformation, lequel des deux arrivera le premier, celui qui veut la transformer son corps à l'image de la vérité divine, ou la vieille habitude du corps d'aller en se décomposant. Le progrès d'Agni semble-t-il de ces deux conditions, le travail reste toujours un travail de conscience. Tout d'abord, la durée. L'expérience, on s'aperçoit, le problème de l'immortalité est toujours lié à un problème de vérité. Alors c'est très important. Le problème de l'immortalité est toujours lié à un problème de vérité. Et immortel ce qui est vrai. Si nous étions totalement vrais, nous serions totalement immortels du haut en bas. Jusqu'à présent, il n'y a guère que notre âme qui soit immortelle, parce qu'elle est la vérité de l'esprit en nous. C'est elle qui passe de vie en vie, grandit, progresse, devient de plus en plus consciente. Le mental aussi, dès qu'il est suffisamment organisé autour de la vérité centrale, qu'il pense la vérité, qu'il veut la vérité, est immortel. On retrouve très bien ces vieilles formations. Il y a des vérités excessivement familières, des besoins de vérité inexplicablement impérieux. Le vital, de même, est capable d'immortalité dès qu'il est suffisamment intégré à la vérité centrale, psychique. On émerge dans une autre dimension, familière comme les millénaires, mais ce n'est guère fréquent. Notre force de vie est généralement beaucoup plus occupée à toutes sortes de passe-temps qu'à la volonté d'édifier une vie vraie. Plus on descend l'échelle de la conscience, plus le mensonge s'épaissit, et plus cela meurt naturellement, parce que le mensonge est d'essence pourrissante. Si le vital est déjà passablement obscur, le corps, lui, est plein de mensonges. La vieillesse, les maladies sont parmi les mensonges les plus évidents. Comment ce qui est vrai pourrait être vieux, laid, usé, malade? Le vieux, le vrai rayonne. Il est beau, lumineux et éternel, c'est évident. Le vrai est invincible. La mort et la vieillesse ne nous attrapent que par défaut de la vérité. Si le silence est la condition de base de la transformation mentale, si la paix est la condition de base de la transformation vitale, l'immobilité est le fondement de la transformation physique. Non pas une immobilité extérieure, mais intérieure dans la conscience cellulaire. Dans le silence mental et dans la paix vitale, nous avons démêlé les innombrables vibrations du monde, les influences secrètes qui nous font agir, sentir, penser dans l'immobilité de la conscience physique. De même, nous commençons à démêler un étrange pullulement de vibrations et à voir de quel grain nous sommes faits. Cellulairement, nous vivons dans un chaos complet. C'est un maelstrom de sensations fortes, agréables, douloureuse, aiguë, des pointes en haut, des flèches en bas, et dès que le tourbillon s'arrête, c'est comme un trou d'angoisse qu'il faut combler à tout prix par d'autres sensations et toujours plus de sensations. On ne se sent vivre que quand on bouge. La base du travail est donc d'amener une immobilité complète dans ce chaos, pas une égalité d'âme, mais une égalité de cellules. Alors le travail de vérité commence et peut commencer. Dans cette égalité cellulaire, notre corps sera comme une vasque transparente où les moindres vibrations deviendront perceptibles, donc saisissables, donc maîtrisable. Toutes les forces de maladie, de désintégration, de mensonge, de déformation et les difformités subconscientes et leur horrible petite faune se mettront à grouiller visiblement dans la lumière et nous pourrons les passer. L'effervescence d'Agni en définitive ne tient pas tant à une immobilité d'adaptation cellulaire qu'à une résistance de nos obscurités. Seule cette immobilité purifiante peut dégager le terrain et libérer le mouvement foudroyant d'Agni sans que le corps se mette à vibrer à l'unisson, s'affole et entre dans des températures inconsidérées. Une fois cette immobilité cellulaire relativement établie, nous ferons une première découverte. Nous nous heurterons à un obstacle majeur qui est une aide majeure dans le travail de transformation. Déjà, nous avions reconnu, sans notre mental pensant, un mental vital qui trouve des justifications merveilleuses à tous nos désirs, nos impulsions, puis un mental physique qui répète et répète mille fois les mêmes incidents comme une scie. Que dire de ce travail ? Il est infinitésimal. Et la seule façon de le faire n'est pas d'entrer en méditation profonde qui ne touche que le sommet de notre être. Pas de réussir des concentrations ou des extases extraordinaires, mais d'être en plein dedans. C'est pourquoi Sri Aurobindo insistait tant sur la nécessité du travail extérieur et des exercices physiques les plus ordinaires, parce que c'est la seule façon de se mesurer avec la matière et de pousser dedans un peu de conscience vraie, ou plutôt de permettre à Agni d'émerger librement. C'est pour cela qu'il marchait tant d'heures chaque jour et travaillait toutes ces heures de la nuit au milieu de ce travail extérieur. Et grâce à lui, le chercheur verra émerger toutes les vibrations fausses, tous les faux plis du corps, comme dit la mère. Et chaque vibration fausse devra être rectifiée. Mais c'est encore une façon négative de dire les choses, car en vérité, il n'y a qu'une seule grande vibration de joie divine dans le monde et en toute chose. La vibration, car Dieu est joie. Dès que la fausseté s'introduit, cette même vibration se décolore, se durcit, se tend, tout grince. La souffrance est le plus sûr indice de la fausseté. La douleur est le mensonge du monde. Mais subitement, du jour où il se met en tête de transformer ce corps, tous les pouvoirs s'évanouissent. Alors je relis juste avant le passage. Dans le silence mental, la conscience mentale s'universalise. La paix vitale, la conscience vitale s'universalise. Dans l'immobilité du corps, la conscience physique s'universalise. L'immobilité, réceptivité, élargissement cellulaire sembleraient parmi les conditions de base pour que la substance puisse supporter Agni et durer. Mais tout d'un coup, une énorme difficulté surgit. Il n'y a plus qu'un corps. Tous les corps lui tombent dessus. Tous les mensonges du monde sont là. Ce n'est pas la bataille d'un homme. C'est la bataille de tout le monde. Et nous approchons du vrai problème. Dans cet éclaircissement physique, le chercheur fait une autre découverte assez brutale. Mais tous ses pouvoirs yogiques s'écroule. Il avait déjà maîtrisé les maladies, maîtrisé les fonctionnements du corps, peut-être même maîtrisé la pesanteur. Il était incapable d'avaler des poisons sans en souffrir. Ça, c'est Sri Aurobindo. Bref, il était le maître de la maison parce que sa conscience était le maître. Mais subitement, du jour où il se met en tête de transformer ce corps, tous les pouvoirs s'évanouissent comme de l'eau dans le sable. Les maladies tombent sur lui comme sur un débutant, les organes se détériorent, tout fonctionne de travers, il semble que le corps doit oublier ses vieux mouvements mensongers, pourrissants, pour tout réapprendre suivant le mode nouveau. La mort s'en mêle. Entre deux fonctionnements, la vérité, le vieux mouvement, le nouveau mouvement et le vieux mouvement, qui doivent être remplacés par des organes symboliques, par une vibration vraie. La ligne est très mince, parfois, qui sépare la vie de la mort. Peut-être même faut-il être capable de passer la ligne et de revenir pour vraiment triompher. C'est ce que Mère appelle mourir à la mort. Après l'une de ses expériences en 1962, d'où elle faillit ne pas revenir. C'est-à-dire qu'il faut faire face à tout, tout ce qui résiste. Mais nous connaissons le même pouvoir aux étages supérieurs de la conscience. Dès que le chercheur se met en route, tout va de travers. Lui qui se croyait un mental solidement ancré dans la vérité, il voit défiler les suggestions, les scepticismes les plus agressifs. Il se croyait pur et bien honnête. Et il ramasse une série d'horreurs vitales à décourager les pires chenapans du monde et quelques autres qui ne sont pas d'ici. En d'autres termes, Sri Aurobindo l'a déjà dit, on ne peut pas résoudre un problème sur quelque plan que ce soit sans faire face à tous les contraires du but. Autrement, ce ne serait pas une victoire, mais une oppression. Nulle part, sur aucun plan, il ne s'agit de trancher le mal, mais de le convaincre de sa propre lumière. C'est extrêmement important ce que dit Sri Aurobindo. Autrement, il ne serait pas une victoire, mais une oppression. Nulle part, sur aucun plan, il ne s'agit de trancher le mal, mais de le convaincre de sa propre lumière. Merci infiniment, Sri Aurobindo et Douce Mère, pour cette merveilleuse lecture de l'aventure de la conscience. Le chapitre 17, la transformation du corps. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Ajanda, Savitri, Bhavan.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.